Dans l'évangile de Luc et dans d'autres passages, on trouve des paroles du Christ nous disant que le Fils de l'homme viendra dans la nuit à l'heure où on ne s'y attend pas et que donc il faut se tenir prêt et pour veiller. Dans ce passage de Luc, en plus, Jésus dit que le Fils de l'homme viendra comme un voleur au milieu de la nuit. Cette histoire de voleur est très curieuse et c'est elle qui est fort difficile à expliquer. Cette histoire m'a marqué d'une certaine manière parce que Calvin utilise ce passage pour se moquer des catholiques qui traitent avec le plus grand sacré le pain de l'hostie lors de la communion. En effet, il dit « Vous, les papistes, comme il disait, vous dites que le pain est le corps du Christ parce que Jésus s'est identifié au pain et donc dès que vous voyez une hostie, vous le traitez avec le plus grand des sacrés. » Eh bien, dit Calvin, si on respectait l'Écriture, on devrait aussi se prosterner devant tous les voleurs que l'on rencontre dans la rue parce que Jésus lui-même a comparé le Fils de l'homme à un voleur. Et donc le voleur est en quelque sorte un sacrement de la présence du Christ. Je ne pense pas qu'il faille trouver là le sens de ce texte, mais en tout cas, il est compliqué de savoir ce que Jésus a exactement voulu dire en parlant de cette venue du Fils de l'homme au cours de la nuit auquel il faut se préparer au risque d'avoir de gros problèmes. La première idée qui vient à l'esprit pour comprendre ce passage, c'est de dire que cela devrait être compris par rapport à sa propre mort. C'est qu'en effet, nous ne savons pas quand nous mourrons, peut-être que ce sera pendant la nuit, et donc il faut se tenir prêt à tout moment à accueillir son Seigneur que l'on accueille au moment de la mort. Cette interprétation peut faire sens, je ne le conteste pas, parce que, par exemple, il y a cette parabole de Jésus avec l'histoire du grenier. Vous savez, le riche qui a accumulé plein de richesses et on lui dit « mais tu ne sais même pas quand tu mourras, ce sera peut-être tout de suite, peut-être demain, donc c'est toute cette richesse, qu'en feras-tu ?» Il y a aussi cette parabole du serviteur infidèle où Jésus reproche aux croyants de ne pas assez se préoccuper de leur avenir spirituel et de ne pas se projeter dans l'avenir. Et donc, effectivement, on ne sait jamais quand on mourra, donc on devrait se préparer à tout instant à rencontrer notre Seigneur et à comparaître devant lui, c'est-à-dire être prêt à tout moment à pouvoir mourir, en quelque sorte, et à rencontrer notre Dieu. Vous comprendrez que, même si cela n'est pas entièrement faux, cela ne me plaît pas énormément, en particulier parce que je ne crois pas que la rencontre avec le Christ doit nécessairement être assimilée à notre mort. Comme si on ne pouvait entrer dans le royaume de Dieu qu'en mourant, ou comme s'il fallait que le seul moment où l'on pourrait rencontrer Jésus et être accueilli dans le festin du royaume, ce serait à notre mort. Cette théologie serait désespérante parce qu'elle ne voudrait dire que finalement nous n'aurions de consolation que dans l'autre monde et que nous ne serions ici-bas sur terre que dans une vie de souffrance, de solitude, de nuit, d'attente et de tristesse, et que la seule joie que nous pourrions espérer, ce serait enfin de mourir pour rencontrer Jésus et entrer dans le festin du royaume. Cette lecture me semble désespérante et, à mon avis, fausse, même par rapport à l'ensemble de l'Évangile, parce que j'entends bien dans l'Évangile de très nombreuses promesses pour des ici-bas. Et je crois bien que si on rencontre le Christ dans sa vie ici même, eh bien on est invité dans le festin du royaume. Et que dès ici-bas, quand on a le Christ dans son cœur, eh bien c'est la joie, c'est la fête, c'est la plénitude de la paix, du bonheur, de cette rencontre. Il n'y a donc pas à attendre d'être mort pour trouver la paix, et pas à attendre de mourir pour rencontrer Jésus, ni pour trouver quelque chose qui soit de l'ordre du bonheur. Les béatitudes de même, les 8 béatitudes, ne sont pas des promesses simplement pour l'au-delà, mais c'est heureux ceux qui pleurent, car ils sont consolés, mais dès ici-bas, avec la présence du Christ. Et ceux qui procurent la paix, ils sont appelés fils de Dieu, ici-bas. il ne s'agit pas de promesses pour le futur. Et la preuve d'ailleurs, c'est qu'on dit « heureux les humbles, car ils hériteront la terre ». Or, dans l'au-delà et dans l'autre monde, il n'y a plus de terre, et donc il n'y a pas de terre à hériter. Autrement dit, les béatitudes, c'est pour dès ici-bas dans notre vie. Et cette rencontre du Christ que nous attendons dans la nuit, ce n'est pas l'attente de notre mort, mais c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter dans notre existence. Donc il faut trouver une autre solution. L'autre solution la plus souvent présentée, c'est l'hypothèse, c'est l'explication qu'on appelle techniquement millénariste. Le millénarisme fait référence au règne de 1000 ans, 1000 années, qui est annoncé dans l'Apocalypse, au moment où Jésus doit revenir à la fin du monde. Il doit régner 1000 ans avec les justes, puis s'en aller en prenant les justes avec lui. Et donc il s'agit, autrement dit, de quelque chose de l'ordre de la fin du monde. Et donc on peut effectivement comprendre ce passage, comme bien d'autres, comme faisant allusion à la fin du monde. Ce qui renvoie un petit peu à la première hypothèse d'ailleurs, parce qu'a priori, à la fin du monde, on ne va pas survivre beaucoup. Mais l'idée que on doit se préparer à une apocalypse soudaine, une sorte de fin du monde où Jésus va revenir, et là il va y avoir des bouleversements, des choses effroyables, des destructions. Tout cela est très bien raconté dans l'Apocalypse. Et du coup, l'histoire du voleur qui vient peut se comprendre dans ce thème apocalyptique, puisque dans l'Apocalypse, il n'y a pas que des pluies de pétales de rose. Il y a aussi des destructions, des difficultés, des feux qui sont jetés sur la terre et qui vont toucher tous les méchants, et seuls les justes pourront y échapper. Il est certain que ça permet de comprendre ce passage. Je ne rejette pas cette interprétation possible pour la bonne raison que je crois que beaucoup des premiers chrétiens, et même dans les temps apostoliques, ont interprété ce passage comme ça. La preuve que j'en ai, c'est des thèmes très semblables que l'on trouve par exemple dans les lettres de Paul, où là clairement il fait allusion à quelque chose qui est de l'ordre de la fin du monde, qui peut surprendre le croyant à tout moment. Et donc il faut être prêt à accueillir Jésus pour qu'il nous emmène avec lui dans son règne de 1000 ans. Par exemple, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, on retrouve cette idée de voleur, où Paul dit cela. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Là, Paul fait clairement allusion à une croyance d'attente apocalyptique. Il est évident, quand on lit les Actes des Apôtres, que les premiers chrétiens croyaient à une fin du monde imminente. On voit dans les Actes les premiers chrétiens vendre toutes leurs propriétés, tout mettre en partage et se mettre à prier en permanence, parce qu'ils pensaient que dans les jours qui viennent, Jésus reviendrait pour faire la fin du monde et prendrait avec lui les justes. Et donc ils voulaient faire partie de ces justes, de ces 144 000 élus qui seraient sauvés. Le problème, c'est que cela n'a pas eu lieu. Et il n'y a pas eu de fin du monde, Jésus n'est pas revenu, il n'y a pas eu ce grand feu du ciel qu'attendaient les premiers disciples et qu'attendait même Paul au début de son ministère. Et du coup, les premiers chrétiens qui avaient tout vendu se sont trouvés dans une misère épouvantable parce qu'ils n'avaient plus rien. Ce qui fait qu'à la fin de son ministère, l'apôtre Paul ne tient plus du tout le même discours qu'en Thessaloniciens. Il dit au contraire aux fidèles, écoutez, surtout, mariez-vous, travaillez, gagnez de l'argent, installez-vous dans ce monde, et puis pendant que vous y êtes, donnez votre argent, parce qu'il faut subvenir aux besoins des pauvres de Jérusalem qui ont tout vendu, qui n'ont plus rien, et qui se sont retrouvés dans la misère la plus totale. et donc changement de programme. Ce qui fait que, effectivement, aujourd'hui, nous ne pensons pas que la fin du monde soit imminente. Peut-être qu'elle le sera un jour ou l'autre, mais en tout cas, si c'était le cas, ça voudrait dire que ça ferait 2000 ans que les chrétiens attendent un événement qui n'arrive pas. Et donc, à quoi servirait un texte qui ne pourrait toucher qu'une génération parmi les centaines de générations qui existent depuis le Christ ? Je pense que tout texte concerne tout croyant à tout moment, et par conséquent, cette lecture ne me convient pas. Je vous ai dit que les premiers chrétiens certainement lisaient ce passage comme ça, en disant, ça fait allusion à une apocalypse imminente. Je vous ai dit que les premiers chrétiens s'étaient évidemment trompés, puisque l'apocalypse n'a pas eu lieu. Mais là, je vais vous poser une question très délicate. C'est de savoir, est-ce que Jésus lui-même a partagé cette erreur, ou est-ce que ce ne sont que les disciples qui ont mal interprété ses paroles ? Alors, là, c'est une question délicate. Certains théologiens affirment qu'effectivement Jésus lui-même a partagé cette erreur de la croyance d'une fin du monde imminente et que par conséquent ce texte ne dirait rien d'autre que de dire « méfiez-vous parce que la fin du monde se peut être pour cette nuit ». C'est ce qu'a dit en particulier Albert Schweitzer, le grand théologien, il y a plus de 100 ans et d'autres à sa suite pensaient que Jésus en quelque sorte, s'était aussi trompé, avait partagé cette croyance dans une fin du monde imminente et que, par conséquent, il avait eu tort, en quelque sorte. Vous savez que je suis prêt à avoir une lecture très critique de l'Évangile. Je suis prêt à penser que Paul a pu se tromper. Je suis prêt à penser que les premiers disciples aient pu avoir une mauvaise théologie. Je suis prêt à penser que les Actes des apôtres ne soient pas un modèle de vie chrétienne pour aujourd'hui. Mais de là à penser que Jésus se serait trompé sur un point aussi grave, j'ai un petit peu de mal à m'y faire. Parce que si Jésus s'est trompé là-dessus, alors ça remet en cause quand même beaucoup de choses de son message. Enfin, pas tout à fait tout, mais beaucoup, beaucoup de choses. Ah, alors, comme je suis un théologien naïf et sommaire, je maintiens que je voudrais maintenir que Jésus ne s'est pas trompé, mais que ce sont les premiers disciples qui ont mal interprété ses dires. Voilà. Et que par conséquent, je ne me satisferai pas de cette interprétation millénariste que je vous ai dite. Je ne pense pas que ce soit le sens du texte. En tout cas, ce n'est pas le sens pour nous, ça c'est évident, mais je ne pense même pas que c'est ce que Jésus ait voulu dire. Je crois que Jésus était plus malin que ça. Et donc, il faut reprendre sa copie et le lire complètement autrement. Mon idée, c'est que il n'y a pas besoin, je vous l'ai dit un peu au début, qu'il n'y a pas besoin d'attendre la fin du monde, ni sa propre mort, pour rencontrer Jésus. Je crois que ce retour du Christ n'est pas un événement historique à attendre, mais que c'est une expérience de foi que nous devons tous désirer. C'est-à-dire que Jésus ne soit pas venu simplement dans le monde il y a 2000 ans, mais qu'il se rende, qu'il revienne pour chacun de nous se rendre présent dans notre vie. Et donc le retour du Christ, c'est le moment où Jésus vient dans notre vie, et là, c'est une apocalypse dans le bon sens du terme, parce que c'est une révélation. Et là, effectivement, ça peut entraîner des destructions, parce que ça ne détruit que le mal. C'est-à-dire que si Jésus vient dans une vie, ça détruit l'ancien homme, ça enlève les vieilles habitudes, ça détruit tout ce qui est de l'ordre de la tristesse, du découragement, du désespoir, du matérialisme, de l'égoïsme, de toutes ces ambitions morbides. Et donc cette venue du Christ fait de bonnes destructions et construit une Jérusalem nouvelle et un monde nouveau qui est plein de joie et de bonheur. Et donc comme cela que je crois comprendre ces passages, c'est-à-dire que nous devons être en mesure d'accueillir Jésus dans notre vie et de le recevoir. Or, nous voyons dans ce texte, comme bien d'autres, qu'il y a dans notre vie des moments de nuit, c'est-à-dire des moments où nous ne sommes pas dans la lumière du Christ, des moments même où Jésus est absent, des moments où nous sommes loin de Dieu. Et la question de ce texte, c'est comment gérer cette absence du Fils de l'homme. Comment gérer ces moments où nous sommes dans la nuit du doute, dans la nuit du découragement, dans la nuit de l'épreuve aussi même? Et ces moments où notre foi n'est pas la plus vivante, ces moments où justement Jésus n'est pas présent. Ce que dit le texte, c'est que d'abord, il n'y a pas à se culpabiliser du fait que Jésus ne soit pas toujours présent dans nos vies. Il y a même au contraire de très nombreuses paraboles qui montrent, qui partent de l'idée que le maître est absent. La parabole des talents, le maître confie ses biens aux serviteurs et part en voyage. La même chose dans la parabole des vignerons, il confie la vigne et il s'en va. Et donc il y a beaucoup de paraboles où Dieu est absent. Et moi ça me parle parce que je dois vous dire que dans ma vie, Dieu n'est pas toujours présent. Soit qu'il ne l'est pas toujours, soit que même s'il l'est un peu, il y a dans ma vie des grandes zones d'ombre où clairement Dieu ne règne pas. Et il y a dans ma vie bien des moments, bien des événements, bien des choses ou des actes où, pour parler pudiquement, je dirais Dieu est un peu en voyage. Eh bien, tous ces passages me rassurent, parce que cela me montre que cela ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui, qu'il puisse y avoir ces moments ou ces zones d'ombre dans nos vies. Alors, ce que dit le texte, c'est que si l'on désire cette présence du Christ dans sa vie, parce que c'est la présence de l'Époux, c'est la présence de celui qui nous invite au banquet de noces, celui qui nous invite à la félicité, à vivre une sorte de lune de miel spirituelle avec lui, si on désire ces moments, eh bien, il faut savoir être patient, attendre, il faut, dit le texte, veiller et prier. Parce qu'on ne peut pas mettre Jésus de force dans sa vie. Et même si on désire avoir la foi, on ne peut pas se forcer à l'avoir. Mais tout ce que l'on peut faire, c'est se mettre en état de disponibilité vis-à-vis du Christ. Et Jésus vient quand il veut, comme il veut, à condition que nous l'attendions, que nous soyons en mesure de le recevoir. Parce que, en effet, il est vrai que il y a des moments peut-être où Jésus pourra se donner lui-même. C'est Jésus qui vient. La question, c'est serons-nous capables de l'accueillir quand il se présentera? Jésus, c'est un peu comme le facteur de la poste. Il vient, il frappe à la porte. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. S'il y a quelqu'un, il ouvre la porte, on reçoit. Si on n'est pas là quand il frappe, le bon facteur, il repasse un peu plus tard. Mais en tout cas, à ce moment-là, rien n'arrive. Et donc, il faut être disponible, prêt à entendre ce moment, prêt à accueillir Jésus. Et pour ça, il faut dans sa vie avoir cette espèce d'attente active qui n'est pas de se dire « Oh ben moi, je n'ai pas la foi, mais je m'en fiche, Dieu me la donnera s'il veut », mais d'être une attente active et veillante, de désir du Christ, de désir de la foi, de désir de Dieu, de volonté de le trouver. Et c'est cette quête, quand on est dans cette disposition de quête, qu'à ce moment-là, il peut y avoir une place pour l'accueillir au moment où il vient. Et à ce moment-là, la question, c'est d'être prêt pour le moment où Jésus se présente. C'est ce que dit aussi Ésaïe dans son beau chapitre 55, quand il dit « Cherchez le Seigneur tant qu'il est proche, venez à lui tant qu'il se laisse trouver ou tant qu'il est proche. » Être capable d'être là, je dirais, au bon moment. Alors maintenant, que faire dans ces moments d'absence, dans cette attente active? Ce n'est pas tout. Il n'y a pas que de désirer, de prier et de veiller. Le texte lui-même et d'autres textes, comme ces grandes paraboles que je vous ai dites, précisent aussi ce que nous pouvons faire. Quand il dit dans Luc, et quel maître qui a confié ses biens à ses serviteurs pour qu'il donne à manger aux autres au temps convenable et qu'il le trouve en train de faire ça, à ce moment-là, il est content et il les prend avec lui. Je pourrais dire que cette attente active de Dieu n'est pas de rester à genoux en prière en simplement attendant que Dieu arrive. C'est une attente active aussi au niveau de l'action et de la fidélité par rapport à l'œuvre dans le monde. Et en effet, ce que nous pouvons faire déjà, si Dieu est absent, c'est de travailler pour lui. Ça, c'est le sens des grandes paraboles. le maître de la vigne confie sa vigne au vigneron et il dit « Allez-y, travaillez ». Et donc, même si Dieu est absent, je sais ce qu'il me demande de faire. Et même si je n'ai pas une foi florissante, je peux travailler dans la vigne du Seigneur. Et travailler dans la vigne du Seigneur, je sais ce que c'est. C'est de travailler à faire en sorte que ce monde ou que ma vie puisse donner des fruits, les fruits de l'esprit, vous savez, l'amour, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. C'est-à-dire, nous pouvons travailler dans ce monde, que nous ayons la foi ou non, nous pouvons travailler dans ce monde pour qu'il s'approche du royaume de Dieu. Nous pouvons œuvrer au fait que ce monde puisse être de plus en plus conforme à ce que Dieu attend. Et donc oui, vous n'avez pas la foi, eh bien ça n'est pas grave. Vous pouvez quand même vivre l'évangile du Christ, c'est-à-dire apprendre à aimer, à pardonner, à travailler à un monde plus fraternel, à un monde où il y ait plus de service, de bonté, de douceur et d'amour. En ce sens, je me rapprocherai d'ailleurs de la pensée juive, où un jour est venu ici pour un groupe un grand rabbin, et qui nous a dit cette chose assez étonnante en disant, vous savez, pour être juif, il n'y a pas besoin de croire en Dieu. Il suffit d'appliquer les commandements. Voilà, donc il y a une loi, on applique les commandements, on ne vous demande même pas de croire en Dieu, ça n'est pas la question. Et donc, je ne pense pas que Dieu nous demande des commandements tout faits. Pour nous, l'Évangile nous demande simplement, librement et intelligemment, de travailler dans la vigne du Seigneur. Et donc je vous dirais, peu importe que vous ayez la foi ou que vous croyez en Dieu, travaillez dans la vigne du Seigneur. C'est ça, être chrétien et rien d'autre. Et d'autre part, je crois que travailler dans les vignes du Seigneur, eh bien c'est se rendre aussi disponible à la présence de Dieu. Parce que c'est là que Dieu revient, dans cette façon que nous avons de travailler pour lui. Pour ça qu'il dit que vos reins soient sains, pour ça que je mets une ceinture sur ma robe, contrairement à tous mes collègues d'ailleurs, commandement de l'Évangile, c'est-à-dire soyez prêts à travailler, et il dit gardez vos lampes allumées ou enflammées. C'est-à-dire ayez toujours l'action et la lumière, qui est la parole de Dieu bien sûr. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc gardez d'une main l'action, la disponibilité, et de l'autre, gardez cette lumière de la parole, et ne vous inquiétez pas. Même en pleine nuit, eh bien, vous pourrez, Dieu se rendra présent au moment où il le faut. Et à ce moment-là, lorsque le Christ vient, eh bien, il y a un renversement de la situation, puisque le texte dit, le Fils de l'homme vient, s'il les trouve prêts, il mettra sa ceinture, et il va leur donner à manger. C'est-à-dire renversement, si vous donnez de la paix, si vous donnez du monde, de l'amour, si vous donnez de la fraternité au monde, eh bien vous vous rendez disponible à la venue du Christ qui viendra dans votre vie, vous donnez à vous la paix, l'amour, l'espérance et la bienveillance dont vous avez tant besoin. Ou alors on pourrait aussi comprendre cela autrement en voyant cette nuit, non pas simplement comme la nuit de l'absence de foi, de l'absence de Dieu, mais comme la nuit de l'épreuve. Et à ce moment-là, ce que nous dirait ce texte, c'est que même si vous êtes dans la nuit de l'épreuve, de la difficulté, du deuil, de la mort ou du découragement, gardez confiance. Même si vous avez l'impression que Dieu n'est pas là parce que il vous arrive tous les malheurs du monde et vous dites « Mais où est Dieu ?» comme Job qui hurle sa douleur. Eh bien, gardez confiance parce que Dieu n'est jamais loin. Dieu n'est jamais loin et il viendra. Ça, c'est la certitude. Il viendra dans votre nuit. Dieu viendra, mais quand il voudra, comme il voudra. Dieu, vous savez, l'aide de Dieu n'est pas toujours présente au moment où on le veut. Et Dieu ne vient pas comme on le sonne, comme quand on le sonne comme un serviteur zélé, on appuie, dring, dring, allez, viens me servir mon bain chaud. Dieu ne vient pas comme cela. Dieu vient, et nous avons là simplement la promesse que de toute manière, Dieu viendra dans votre nuit. Ça, c'est sûr. mais vous ne savez pas quand, mais il viendra. Et donc gardez cette espérance qu'à un moment donné, il va arriver une lumière d'espérance et une force de vie qui vous aidera à sortir de la nuit. Je crois que ça, c'est essentiel, même dans l'épreuve, de ne jamais, se renfermer dans la nuit jusqu'à ce que la nuit soit toute puissante. Mais il faut toujours, quelle que soit l'épreuve, garder l'espérance que la vie peut revenir. C'est très difficile de dire ça aux gens, parce que quand les gens sont dans le malheur, si on leur dit « oh, ça va s'arranger », ils ont l'impression qu'on ne prend pas leurs problèmes au sérieux. Pourtant, c'est la vérité. Il faut croire en effet que, quel que soit le malheur, il y a une vie possible. Quel que soit le deuil, il y a une possibilité de revivre. Quelle que soit l'épreuve, on peut se reconstruire. Quelle que soit la difficulté, on peut retrouver une façon d'être, de retrouver de la joie même, et de retrouver de la confiance et une certaine force de vie. Et ça, il ne s'agit pas d'insulter la souffrance des autres ou le deuil de l'autre en lui disant « oh, c'est rien, ça va s'arranger », mais de se savoir que peut-être nous-mêmes, avec l'aide de Dieu, nous devons toujours garder une fenêtre ouverte vers une solution possible et vers une vie nouvelle possible. Si de nous-mêmes nous fermons tous les volets, comment rentrera la lumière ? Si de nous-mêmes nous nous disons « je suis fichu, je n'y arriverai plus », comment y arriverons-nous ? Et il faut donc garder ce petit lien d'espérance et de confiance qui dit « même si aujourd'hui je suis dans le noir, je crois que le Fils de l'homme viendra me tendre la main pour me sauver quand ce sera le moment pour lui, mais je crois qu'il viendra. » Quant à cette comparaison avec le voleur qui vient percer et dérober, alors ça, je vous disais, c'est ce qu'il y a de moins commenté qui soit. J'ai plusieurs idées là-dessus, mais je vous les dirai la prochaine fois, parce que sinon ça me prendrait trop de temps. Je vous invite donc à revenir la semaine prochaine, où vous saurez pourquoi le Fils de l'homme revient comme un voleur. Amen.